Merci Daniel, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. C'est bien à partir de mon expérience de chef d'entreprise que je vais vous parler aujourd'hui. Deux mots rapides sur cette entreprise. Donc, Veolia, Daniel l'a déjà un petit peu décrite, c'est une entreprise spécialisée dans les services à l'environnement avec trois spécialités: l'eau, la propreté des déchets et l'énergie. C'est une entreprise qui travaille majoritairement aujourd'hui avec une clientèle de collectivités publiques, et une minorité avec des entreprises. C'est une entreprise qui propose des services qui touchent à la vie de la totalité des citoyens pour les collectivités publiques, puisqu'il s'agit de gérer leurs services d'eau, leurs services de propreté ou bien leurs services de chauffage. Donc des services essentiels pour beaucoup d'entre eux. Sont des services qui supposent des infrastructures lourdes, qui donc ne peuvent être amortis que sur une longue période. Ce sont donc des métiers de temps long, d'où le long terme. C'est une entreprise vieille, puisqu'elle est née il y a 160 ans, même si elle a connu au cours des 20 dernières années beaucoup d'avatars qui lui ont fait changer de nom en cours de route, mais c'est quand même la même que celle qui avait commencé à gérer et à distribuer de l'eau potable à Lyon il y a 160 ans. Service essentiel, long terme, collectivité publique, donc territoire. Tout ça fait que l'entreprise Veolia est confrontée à des souhaits, des enjeux de beaucoup de parties prenantes. Elle travaille sur les services à l'environnement, donc sur la protection de l'environnement, et donc elle est confrontée à l'ensemble des organisations qui s'occupent de protection de l'environnement ou de protection de la nature. Les services qu'elle délivre sont des services essentiels, dont nombre d'entre eux conditionnent un développement humain harmonieux. Elle est donc confrontée à beaucoup d'enjeux de développement dans les pays pauvres, notamment, et ces fameux enjeux des engagements du millénaire. Bref, c'est une entreprise qui est confrontée tous les jours à six parties prenantes. D'autant plus qu'aujourd'hui, les métiers qu'elle exerce sont contestés par certains, et notamment la légitimité même d'exercer par une entreprise qui fait donc du profit pour vivre ces métiers de distribution d'eau ou de gestion de chauffage sont contestés par certains, par idéologie, sur le thème. Au début c'était l'eau tombant du ciel ne doit pas donner lieu à une activité lucrative, où l'eau est un don de Dieu, à quoi on a rapidement répondu pas les tuyaux, en revanche. Mais en tous les cas, le fait qu'une entreprise qui ne peut vivre qu'en faisant du profit exerce ses activités essentielles à la vie de tous est, vous le savez sans doute, contestée et en tous les cas discutée. Bref, Veolia est confrontée à beaucoup de parties prenantes. Par ailleurs, elle est cotée en bourse à Paris et à New York. Elle a beaucoup d'actionnaires. Elle a des actionnaires individuels au nombre de 500 000, excusez du peu, seulement 230 000 salariés. Mais ces 500 000 actionnaires individuels qui gèrent donc eux-mêmes leur participation à l'entreprise ne représentent que moins de 10% du capital. Elle a donc beaucoup d'actionnaires institutionnels, qui représentent la grande majorité, dont une bonne partie vient du monde anglo-saxon, mais qui sont répartis un petit peu dans toute l'Europe, avec des patrons très différents pour les uns et pour les autres. Les actionnaires individuels voient leurs actions s'échanger en moyenne une fois tous les 4 ans, les autres une fois tous les 2 mois. Une petite partie d'actionnaires salariés qui ont été malheureusement touchés parce que Veolia a été extrait dans des conditions difficiles il y a une quinzaine d'années du groupe Vivendi, une dizaine d'années maintenant du groupe Vivendi, et donc les actionnaires salariés ont été rincés à ce moment-là, et donc avant de les réabonner à l'idée d'être à la fois salariés et actionnaires, il a fallu un certain temps. Bref, une entreprise qui est confrontée à tout ce que Daniel Hurtel vient de rappeler. Notre hôte a dit en introduction que nous allions discuter de la shareholder value, qui était, a-t-il dit rapidement, une notion d'autrefois. Je suis désolé de vous dire que ce n'est pas une notion d'autrefois. C'est une notion tout à fait aujourd'hui dominante dans le monde de l'entreprise en général. Elle vient, c'est vrai, en tous les cas, elle a été théorisée, elle a été imposée à partir de l'école de Chicago, donc elle vient des États-Unis, mais elle s'est largement répandue dans le monde entier, en Europe, puis maintenant dans l'ensemble des pays émergents, qui n'existe aujourd'hui en face d'elle aucune théorie alternative qui puisse, je dirais, avoir été répandue et connaître du succès. C'est dire que cette théorie est aujourd'hui vécue comme un axiome. L'idée qu'une entreprise soit là pour faire du profit sous contrainte, donc une entreprise dont l'objectif de l'entreprise soit unique, augmenter ses résultats pour ses actionnaires sous les contraintes des autres parties prenantes, le fait que les actionnaires soient les propriétaires de l'entreprise est une chose qui, pour l'immense majorité des gens, ne se discute pas. Ce sont des axiomes. Et à partir de ces axiomes, on bâtit des théories, des théorèmes, et on juge des actions. Personne ne met en doute ces axiomes et ne peut même imaginer que ces axiomes soient faux. Que donc toutes les théories qui se reposent dessus soient sans cohérence et éventuellement, très souvent, totalement fausses. Donc ce n'est pas une théorie d'autrefois, c'est une théorie d'aujourd'hui. Et pour un chef d'entreprise qui est confronté et qui croise, rencontre, dialogue, parfois se dispute avec toutes ces parties prenantes, cette théorie-là, il doit la rendre compatible avec son quotidien. Et pour prévoir peut-être un peu de débat avec Cynthia tout à l'heure, j'ajouterais que Veolia, qui travaille aujourd'hui essentiellement avec des collectivités publiques, souhaite travailler davantage avec des industriels, que ses savoir-faire, ses technologies, son expertise lui permet d'aborder pratiquement tous les problèmes de pollution ou de protection de l'environnement, voire de solutions vis-à-vis des raretés croissantes de l'eau, raretés des matières premières, raretés d'énergie. Et nous souhaitons davantage travailler avec les industriels. Nous proposons aujourd'hui aux entreprises qui travaillent sur des énergies alternatives, extraction de gaz de schiste ou de pétrole des sables bitumineux, des solutions qui leur permettent ou permettraient, s'ils l'acceptaient, de résoudre entièrement le problème de la gestion de l'eau, pollution de l'eau et extraction de ressources en eau dans les milieux naturels. Et que donc, au moins pour ce problème de l'eau, qui fait tant débat sur l'extraction des gaz de schiste, il existe des solutions que nous savons garantir. Et nous reparlons de ça tout à l'heure, peut-être. Toujours est-il que Veolia se présente comme une entreprise qui propose des solutions pour ressourcer le monde, accès aux ressources essentielles, protection des ressources, traitement des pollutions, quelles qu'elles soient, les plus difficiles, et création de nouvelles ressources face aux raretés croissantes. J'en viens maintenant au sujet des parties prenantes. Effectivement, confronté à l'ensemble du contexte Veolia, je me rends compte qu'une entreprise est en fait quelque chose d'assez informel, que j'appellerais, à la suite d'autres, comme un nœud de relation entre différentes parties prenantes qui ont intérêt à sa création, puis à son développement. Et que c'est cet intérêt commun qui a conduit et conduit toujours au fait que l'entreprise se développe. Et que lorsque l'intérêt d'une de ces parties prenantes vient à disparaître, cette partie prenante soit se retire de l'entreprise, soit la conteste. C'est ce qui est arrivé à Veolia lorsque certains ont commencé à contester le bien fondé, la légitimité de l'entreprise de délivrer des services essentiels aux populations avec le but de faire du profit. Et que l'idée que l'objectif de l'entreprise était uniquement de faire du profit sous contrainte imposée par les autres parties prenantes, donc on dirait en mathématiques, problème simple, l'optimisation d'une seule fonction mathématique, d'une seule fonction objective sous contrainte de plusieurs autres, n'était pas la réalité qui permettait de développer l'entreprise, et ce n'aurait pas été la réalité qui aurait permis de la créer. Il n'y aurait pas eu l'entreprise Veolia si ça avait commencé comme ça. En fait, l'objectif d'une entreprise est pluriel, il est multiple, et une entreprise est un organisme à plusieurs objectifs. Il n'y a pas un objectif et des contraintes, il y a autant d'objectifs qu'il y a de parties prenantes. Bien évidemment, ces parties prenantes n'ont pas des intérêts aussi forts les uns que les autres. Elles ne sont pas non plus engagées avec l'entreprise de manière aussi forte les unes que les autres. Mais toujours est-il que si l'une d'entre elles ou certaines d'entre elles voyaient leur intérêt non pris en compte, l'entreprise serait en danger. Aujourd'hui, elle l'est, puisque une des parties prenantes, les actionnaires, ont pris le pas sur les autres. On prit ce pas sur les parties prenantes les plus classiques, et peut-être les plus importantes, les salariés d'un côté, les clients de l'autre, mais aussi sur les parties prenantes, je dirais, plus secondaires, tout en étant aussi importantes et qui ne doivent pas être négligées, les fournisseurs, les prêteurs, les territoires dans lesquels l'entreprise est implantée, pour nous, les associations de protection de la nature, les ONG de développement, bref, toute la société dans laquelle l'entreprise se meut. Et d'ailleurs, il suffit de constater le drame qui se passe pour l'ensemble de ces parties prenantes, dans une population bien plus large que les parties prenantes étroites de l'entreprise, quand elle disparaît. Et on voit bien, d'ailleurs, l'ensemble des représentants de la population, hein, les élus, s'émouvoir et tout faire pour essayer d'éviter la catastrophe. Bon, montre bien que l'entreprise sert des intérêts larges, divers, variés, et que quand elle disparaît, elle crée des drames multiples. Ses objectifs sont donc multiples. Les actionnaires, depuis une vingtaine d'années, 25 ans, depuis la théorie de Friedman, aujourd'hui, sont les plus forts et exercent leur position de force. Ça n'a pas toujours été le cas. Avant eux, on peut considérer que les représentants des salariés dans les années 70, avec la puissance syndicale, a sans doute pris le pas. Avant encore eux, jusqu'au milieu des années 60, on peut considérer que les managers avaient progressivement divisé pour régner l'ensemble de leurs parties prenantes et dirigeaient, sans rendre compte, à grand monde. Ça ne sera peut-être pas toujours le cas, mais ce que je vois poindre demain, ce n'est pas quelque chose de plus harmonieux, mais le remplacement d'un abus de pouvoir par un autre. Et je sens aujourd'hui que la partie prenante client est en train de prendre le pas et risque à son tour de vouloir tirer la couverture à elle seule et d'y imposer son diktat au détriment des intérêts équilibrés de toutes les parties prenantes. Le dirigeant aujourd'hui est cantonné à un rôle d'agent d'une des parties prenantes, des actionnaires, c'est-à-dire que dans cette théorie de l'école de Chicago, le dirigeant est devenu l'agent des actionnaires. Il a pour mission d'optimiser les profits d'ailleurs le mécanisme de récompense qui lui est proposé cherche très souvent à l'associer étroitement à l'atteinte de cet objectif. D'où d'ailleurs les dérives, sur lesquelles on n'a pas besoin de revenir, qui ont été largement commentées et combattues. Une fois qu'on a dit cela, et qu'on dit que l'ensemble des parties prenantes concourent au succès de l'entreprise, les problèmes commencent. Parce qu'ils sont nombreux, ces parties prenantes, comme je viens de vous le dire. Sont-elles toutes de même importance? Et sinon, comment les hiérarchiser? Ensuite, comment assurer leur représentation auprès de l'entreprise? Comment assurer le fait qu'elles s'expriment? Comment définir et délimiter leur pouvoir, et surtout comment organiser la collaboration entre toutes ces parties prenantes? Si on voulait construire une école alternative à l'école de Chicago, toutes ces questions-là auxquelles il faudrait répondre. Bon, il y a un mois, pour ceux qui étaient là, j'imagine que Blanche Secrestin et Armand Hutchuel ont apporté des éléments de réponse qui, me semble, devront néanmoins être complétés. Parce que, par exemple, la répartition des pouvoirs entre les parties prenantes, le rôle du dirigeant, sur lequel je vais revenir, les contre-pouvoirs nécessaires à ceux du dirigeant, posent des tas de questions sur qui a la légitimité de pouvoir les exercer, qui en revanche ne les a pas, et le niveau d'engagement de chacune de ces parties prenantes, qui doit varier d'ailleurs d'une entreprise à l'autre, relève d'une mesure assez complexe. Comment faire néanmoins pour chercher à sortir du pouvoir aujourd'hui, qu'on peut appeler exorbitant, hein, au sens grammatical du terme, l'une des parties prenantes sur les autres, et donc de l'abus de ce pouvoir par rapport aux autres parties prenantes. Dès lors que si toutes les parties prenantes ont intérêt à collaborer pour faire l'entreprise, lui faire produire ce qu'elle sait produire, et notamment des richesses au sens large du terme, ces parties prenantes peuvent diverger en revanche sur la manière de les répartir, ces richesses. Et s'il y a pour sûr des intérêts convergents à collaborer pour faire l'entreprise, il y a aussi des intérêts divergents et donc contradictoires dans le partage de ce que l'entreprise crée. L'équilibre à trouver entre ces intérêts divergents ne peut relever que de principes de gouvernance bien établis. L'idée derrière tout cela, c'est d'éviter qu'un abus de position de force, que seuls les rapports de force qui varient dans le temps, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, soient la manière d'orienter le pouvoir des uns et des autres. On peut juger que dans ce monde de l'entreprise, ce soit illusoire. D'ailleurs, c'était, je crois, une des questions qu'un journaliste me posait lorsqu'il m'a interrogé pour le journal Le Monde. Et pourtant, c'est le fait de toute organisation. Les organisations les plus complexes, les organisations des peuples eux-mêmes, ont eu à gérer, à trouver des solutions pour réguler les rapports de force, pour éviter la loi du plus fort, pour essayer de bâtir des répartitions de pouvoir basées sur la légitimité. Et ces idées de constitutionnaliser le rapport entre les uns et les autres, et donc, en l'occurrence pour l'entreprise, entre les parties prenantes, me semble être sans doute la seule voie possible pour pouvoir fixer les responsabilités de chacune de ces parties prenantes et le rapport entre elles. Constitutionnaliser le pouvoir, ça suppose, alors peut-être que l'expression que vous aviez reprise, Daniel, de Blanche et de Armand, je ne l'ai plus en tête, mais c'est ça dont il s'agit, pouvoir dans les statuts, hein, parce que les statuts à la limite sont faits pour ça, en tout cas on dit souvent que les statuts c'est la constitution d'entreprise. Hein, dès lors que la législation s'en accommode, il n'y a pas beaucoup de législation occidentale qui ne s'accommode pas de pouvoir constitutionnaliser les rapports de force dans l'entreprise, bâtir une constitution pour l'entreprise me paraît être la seule solution pour pouvoir réguler, auto-réguler, hein, par ceux qui la créent, par ceux qui contribuent, par ceux qui y ont intérêt, auto-réguler ces rapports de force. Et comme toute constitution, il est nécessaire certainement dans le temps de la faire évoluer, dès lors que notamment de nouvelles parties prenantes s'invitent à la table, ou s'y trouvent. Là, ça c'est une première idée, comment pour gérer ces rapports de force. La deuxième idée, à défaut de constitutionnaliser, mais même si on le faisait, quels organes de gouvernance utiliser et comment y faire représenter les différentes parties prenantes. Aujourd'hui, les conseils d'administration et l'organe de gouvernance suprême de l'entreprise, ce conseil d'administration est choisi et uniquement choisi par les actionnaires. Il y avait une raison à cela, hein, au départ, c'est que l'idée était que les actionnaires étaient ceux qui prenaient les risques, puisqu'ils mettaient de l'argent et qu'ils étaient payés en dernier. C'est vrai que ce sont eux qui prennent, qui sont payés en dernier, c'est exact, et peut-être ceux qui prennent le plus de risques. Mais néanmoins, on a oublié au passage qu'ils ne sont pas les seuls à prendre des risques. Toutes les parties prenantes prennent des risques dans l'entreprise. Les salariés peuvent perdre leur emploi. Et Dieu sait si aujourd'hui, c'est difficile d'en trouver. Les clients peuvent y perdre leur avance, lorsque l'entreprise leur a demandé une avance. Ils peuvent également avoir un produit, un service qui ne fonctionne pas. Bref, peuvent subir des dommages. Les territoires qui ont accueilli les entreprises, qui ont investi, dépensé pour les accueillir, subissent également des dommages. Les défenseurs de l'environnement, pour ceux qui nous concernent, peuvent, si l'entreprise travaille mal, également subir des dommages, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, toutes les parties prenantes prennent des risques. Pas au même niveau, pas sur la même durée. Les fournisseurs, hein, je ne parle pas des fournisseurs, mais les fournisseurs peuvent également prendre des risques en n'étant pas payés. Et donc, cette notion de risque, d'abord, est plurielle. Deuxièmement, pourrait peut-être permettre de commencer un début de hiérarchisation des parties prenantes, à condition néanmoins qu'on le couple bien avec la durée du risque. Et on va revenir donc sur les problèmes de durée. Aujourd'hui, seuls les actionnaires nomment le conseil d'administration. Il serait sans doute opportun que ce conseil d'administration représente davantage de parties prenantes qu'une seule. La loi, dans d'autres pays, en France, a, depuis très récemment, imposé la présence de salariés au conseil d'administration. Ça a fait débat, mais pas trop, finalement, curieusement. Je pensais que ça ferait beaucoup plus couler d'encre que ça n'a en fait couler. Je suis persuadé que la présence de salariés au sein du conseil d'administration, avec les mêmes pouvoirs que les autres administrateurs, va aider les entreprises, va permettre une compréhension mutuelle des intérêts de l'entreprise et vraisemblablement éviter une radicalisation des positions. S'il fallait s'en convaincre, l'exemple allemand, qui, comme vous le savez, impose au conseil d'administration un partage entre les actionnaires et les salariés, inventé par les Anglais à la fin de la guerre pour affaiblir les entreprises allemandes, a eu pour résultat que strictement l'inverse, c'est-à-dire les a renforcés. Il est vraisemblable que cette présence les renforcera. Mais ça n'en fait qu'une seule ou autre de partie prenante. Je suis pour ma part persuadé que si j'avais au conseil d'administration de Veolia des représentants de mes clients, en l'occurrence les collectivités publiques, mais aussi demain les industriels, nous aurions beaucoup mieux vécu la crise que nous venons de vivre. Quand on est autour de la table, quand on peut faire valoir son point de vue, dès lors qu'on a un intérêt en jeu, on est obligé d'écouter le point de vue des autres et l'intérêt des autres, on est beaucoup plus prêt à faire des compromis. Et on en comprend l'enjeu, les raisons, la nécessité, et on est capable ensuite de rediffuser au sein de l'ensemble des parties prenantes les raisons de ces compromis. Si on avait déjà ces trois parties prenantes essentielles au conseil d'administration, je pense qu'on ferait beaucoup de progrès. On pourrait peut-être les élargir, mais ce sont quand même les parties prenantes qui ont sans doute le plus d'importance, même s'ils ne prennent pas des risques d'égale valeur ou d'égale intensité, pas pour une même durée. Et c'est sûr que les salariés prennent des risques plus longs, certains actionnaires aussi, pas tous. Il faudrait sans doute donc distinguer entre les actionnaires longs et les actionnaires courts. Et puis il y a des clients longs et il y a des clients courts aussi. Des clients qui s'engagent sur longtemps avec des entreprises, d'autres pas du tout, qui achètent un produit, qui s'en vont et puis qui verront bien s'il recommence. De ces trois parties prenantes, dès lors qu'on choisit peut-être davantage ceux qui sont engagés sur une longue période, on aurait, je pense, déjà une représentation et un fonctionnement qui éviterait que l'entreprise soit focalisée sur l'optimisation des intérêts d'un seul. Troisièmement, après la constitutionnalisation et la constitution du conseil d'administration, le rôle du dirigeant. Plus compliqué pour un dirigeant d'avoir plusieurs objectifs. C'est plus simple d'en avoir qu'un seul, l'optimiser, et tout le reste étant un champ de contraintes défini peu ou prou par la loi, finalement. On respecte la loi, c'est la seule contrainte, c'est de respecter la loi en tout, et d'optimiser l'objectif résultat financier. Plus compliqué de devoir optimiser plusieurs objectifs, et donc bien évidemment de les pondérer les uns par rapport aux autres. C'est donc un rôle très différent du rôle d'agent. Ça suppose sans doute de s'être mis d'accord avec ceux qui font l'entreprise, donc ce conseil pluriel que je viens de décrire, sur la pondération de ces différents objectifs. Puis ça suppose une forme de pouvoir de décision en temps réel, chaque jour, certains l'appellent voie d'habilitation, pour agir dans un sens qui favorise tel type d'objectif plutôt que tel autre. Et l'exemple que j'ai trouvé dans ce qui a été rapporté de votre discussion d'il y a un mois, cette règle des avaries communes du droit maritime me semble un très bel exemple. Cette règle des avaries communes du droit maritime donne au capitaine de navire, selon les règles qui, je crois, sont légales, la possibilité de décider tout seul quelle marchandise il peut passer par-dessus bord lorsqu'il y a danger pour le navire. Et c'est lui seul qui le décide, quelle que soit la marchandise. Mais il y a une deuxième règle, une règle concomitante, qui fait que toute personne qui embarque de la marchandise sur un bateau s'engage, sans le savoir aujourd'hui à mon avis souvent, à partager les dommages des marchandises qui ont été balancées par-dessus le bord à l'arrivée. Ce qui fait que le capitaine n'a pas à tenir compte de qui il va léser en balançant telle caisse ou pas que telle caisse, parce que tout ça sera solidairement réparti à l'arrivée. On a là un bel exemple d'un manager habilité par l'ensemble de ses parties prenantes au point de départ, mais qui lui laisse la marge de manœuvre nécessaire pour décider, en l'occurrence en cas de difficulté, mais afin d'optimiser le bien commun, entre guillemets, que ce bien ou ce mal commun seront, sous une forme ou une autre, mutualisés entre les parties prenantes. Alors qu'au départ, il n'y a pas de mutualisation envisageable entre les gens qui chargent leurs marchandises sur le même bateau. C'est un bel exemple de quel rôle le chef d'entreprise pourrait avoir dans ce contexte-là. Et donc je milite pour un rôle plus large et une forme de rôle habilité plutôt que le rôle de mandant ou d'agent d'une seule des parties prenantes. En contrepartie, il faut imaginer des contre-pouvoirs. Parce que pour ne pas retomber dans cet abus que je décrivais tout à l'heure d'avant les années 60 ou 65, où le chef d'entreprise avait curiassé l'ensemble de ses parties prenantes pour être le seul maître à bord, il faut donc trouver des contre-pouvoirs. Et notamment le contre-pouvoir de décider qui a le droit de le mettre à la porte. Sans doute pas une seule partie prenante. Pas toutes non plus, certainement. Et là, le problème que j'évoquais au début, ce problème de définir et de délimiter les pouvoirs entre les parties prenantes, me semble être crucial. Très certainement, la notion d'engagement, de prise de risque, de durée de la prise de risque, donc de long terme, sont sans doute des critères qu'il faudrait retenir pour définir ceux qui ont le droit de juger le travail du chef d'entreprise, de le récompenser ou de le sanctionner, jusqu'à le mettre à la porte. Mais c'est sûr que dans le l'acception que je définis pour l'entreprise. Si le rôle du dirigeant doit changer, il faut qu'il change. Sa mission doit changer, il faut qu'également les mécanismes de contre-pouvoir changent et soient bien et proprement clairement définis. Toujours dans le rôle du dirigeant, le système de sa rémunération doit également tenir compte des multiples objectifs, et pas d'un seul. Là aussi avec pondération. Et là aussi, cette définition de son mode de rémunération, son mode de récompense, ne peut se décider que par une association de parties prenantes, là aussi sur les objectifs essentiels, et vraisemblablement par un certain nombre de parties prenantes et pas toutes. Ce qui pose la question de savoir comment donner la parole quand même aux autres, voir comment elles sont représentées, comment elles peuvent faire valoir leur point de vue et peut-être voir leur pouvoir augmenter lorsque leur intérêt tombe trop bas. Parce qu'une partie prenante qui dit, bon, est peu importante, mais qui ne trouve plus aucun intérêt à l'entreprise, elle menace l'entreprise. Je parlais des associations de protection de la nature pour nous, ou bien des associations de protection des défense des usagers qui a commencé à contester le rôle des entreprises dans la distribution d'eau potable. C'était des parties prenantes un peu éloignées, dont on ne prenait pas vraiment soin. Dans tous les cas, ni des actionnaires, ni des clients vraiment, ni des salariés. La contestation qui venait du fait qu'ils estimaient ne plus trouver leur compte dans ce fonctionnement a fait beaucoup de mal à notre entreprise et aurait pu la tuer. Donc il faut trouver un moyen aussi pour que les parties prenantes secondaires, lorsqu'un certain seuil de souffrance par rapport à leurs intérêts devrait être franchi, retrouvent un moyen de se faire entendre de manière plus forte. Voilà pour tout ce que je voulais vous dire. Ça recouvre certainement beaucoup de choses qui ont été dites lors de la précédente réunion. Ce que je voulais aussi dire, c'est que ce que je dis ce soir, d'une part, n'est pas du tout la réalité, et donc reste à construire, même si effectivement des débuts d'école commencent à naître, que d'autre part, dans le milieu que je fréquente et qui est mon milieu de tous les jours, au milieu de mon conseil d'administration ou de mes pairs, ce sont des propos inaudibles. Ces propos-là sont considérés comme des propos qu'on prendrait pour un fou. Ils m'ont lu dans le journal, mais il n'en reste pas moins que si je tenais ces propos-là au sein du conseil d'administration de Veolia, je pense que on demanderait d'aller nettoyer ou de prendre quelques vacances. C'est inaudible parce que ça viole les axiomes. Et ce n'est pas par manque de courage. C'est parce que c'est par aveuglement. Les gens qui sont au conseil d'administration de Veolia, alors il y a beaucoup de financiers, n'imaginent pas, et pourtant ils ne sont pas tout jeunes, mais ils ont tous grandi finalement. Ils ont commencé à travailler dans ce monde de l'école de Chicago. Personne, aucun d'entre eux ne remet en cause, un, l'idée que les actionnaires sont les propriétaires d'entreprise, deux, que l'entreprise n'a qu'un seul objectif, celui d'optimiser la valeur de leur action. Je crois qu'aucun d'entre eux, il m'est arrivé hors conseil, dans des entretiens bilatéraux, de les tester, de les chatouiller un peu, de voir un peu la force de l'axiome. Il y a peut-être un ou deux, effectivement, qui pourraient accepter de rentrer dans une réflexion intellectuelle là-dessus, mais guère plus. Ce qui fait qu'on a beaucoup de travail. Et que pour que les choses changent, il va falloir que beaucoup de gens s'y mettent. Et encore une fois, je crains que ça ne soit pas seulement par défense d'intérêts catégoriels ou individuels. La plupart des membres du conseil d'administration ne sont pas riches, ne détiennent pas d'action, malheureusement. Ils représentent des gens qui détiennent des actions. Ce n'est pas par intérêt personnel, c'est par dogme. Et c'est sans doute la chose la plus difficile à faire changer. Et donc, aujourd'hui, tout ce que je viens de dire après, leur apparaîtrait comme politiquement non correct. J'en reste là pour l'instant.
Merci beaucoup, Antoine. Merci. C'était un exposé extrêmement riche, évidemment, et abordant des quantités de sujets précis avec des propos, avec des propositions. Et des propositions très, très concrètes sur lesquelles nous reviendrons dans la deuxième partie. Et puis une conclusion sur cet aveuglement qui, d'une part, montre à quel point Philoma a raison de faire le travail qu'elle fait, et deuxièmement, bah oui, c'est une réponse à l'aveuglement, parce que l'aveuglement, c'est l'isolement, et deuxièmement, vous nous avez dit, ça n'est pas, à votre avis, par manque de courage, par aveuglement, quelle belle transition en direction de Cynthia.